comment devient-on eunuque? Je vous pose la question, comment devient-on eunuque? Eh bien, la réponse n'est pas si simple que vous croyez. En Inde, ici, les eunuques constituent tout un monde, toute une communauté qui suscite à la fois de l'attirance et du rejet. Mais les eunuques ont un rôle dans les fêtes, dans les mariages, ils sont très demandés, ils sont très présents, mais ils peuvent aussi bien se présenter aux élections. D'ailleurs, je dis ils, mais on dit elles. Elles peuvent, les eunuques, c'est du féminin, voilà, c'est comme ça ici, peuvent se présenter dans des élections, ça a été le cas récemment ici, à Bhopal, où je me trouve. Elles peuvent militer dans des causes diverses et variées, et elles ont un rôle magique. Elles sont magiques dans cette Inde qui est le plus gros producteur mondial de mythologie quotidienne. Les eunuques, par exemple, eh bien, font pleuvoir. Alors, l'an passé, il y a eu une sécheresse ici dans la région. Eh bien, le gouvernement local a officiellement, je dis bien officiellement, demandé aux eunuques de faire des prières spéciales pour faire pleuvoir. Et bien sûr, il a plu. Voilà le rôle des eunuques. Je vous en dirai plus plus tard lorsque nous reviendrons à Paris. Aujourd'hui, rencontre avec un homme remarquable qui s'appelle Rajkumar Keswani, qui est un journaliste très célèbre, non seulement à Bhopal et dans la région, mais dans toute l'Inde. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait deviné, il avait prédit ce qui s'est passé à Bhopal en 1984, cette terrible catastrophe qui a fait plus de 15 000 morts, 500 000 victimes, blessés, handicapés. Il y a toujours des gens qui meurent des suites de la catastrophe de Bhopal. Eh bien, Rajkumar, ce journaliste, il avait prévu ça, il avait prédit, alors que personne ne doutait de la sécurité sur ce site de Bhopal, de l'Union Carbide. Eh bien, il avait enquêté, il avait fait une très très longue enquête, et il, dans un tout petit journal local, il avait écrit un article qui s'appelait « Please save the city », c'est-à-dire qu'il avait deviné que la ville était menacée. Il avait écrit un autre papier ensuite qui n'avait pas eu d'écho du tout, lui non plus, Bhopal sur un volcan, et personne ne l'écoutait, personne ne tenait compte du résultat de son travail. C'était une espèce d'Albert Londres, on va l'appeler comme ça, un vrai Albert Londres indien. Voilà. Et ben, il milite toujours, il est toujours activiste, il est toujours sur la brèche. C'est un homme absolument remarquable et qui me rapproche d'une phrase magnifique que j'ai lue de cette femme merveilleuse qui s'appelle Arundhati Roy, l'auteur de Dieu des petits riens, le Dieu des petits riens, mais aussi d'un bouquin que je vous conseille qui s'appelle L'écrivain militant, que je promène avec moi. C'est aux éditions Folio Documents, c'est un bouquin de poche. Et Arundhati Roy écrit des choses formidables, stimulantes et qui donnent la pêche. Et elle dit, dans un chapitre sur l'écrivain militant, elle dit « Les cyniques disent volontiers que la vie n'est qu'un choix entre une révolution avortée et un compromis honteux. » Mais c'est les cyniques qui disent ça, dit-elle. Et ça nous amène à l'émission d'aujourd'hui, la rediffusion d'une série donc qui date de 1996, où nous étions revenus avec les anciens des brigades qui, 60 ans après, donc, revenaient sur les pas de leur jeunesse et de leur engagement en Espagne. Aujourd'hui, on va retrouver des gens qui ne sont plus là, Roll Tanguy et aussi Pierre Brouet. Et ça me renvoie à un livre, je ne sais pas si je l'avais cité à l'époque, mais je l'ai lu depuis, un livre magnifique que je vous conseille, mais alors vraiment ardemment, qui s'appelle « Hommage à la Catalogne » de George Orwell, l'écrivain britannique George Orwell, « Hommage à la Catalogne », qui parle de ce dont on va parler aujourd'hui, qui va être évoqué dans l'émission d'aujourd'hui. Et puis, je finis avec une autre phrase d'Arundhati Roy, l'écrivain comme on voudra, indien qui est très célèbre, non seulement en Inde, mais maintenant dans le monde entier. « Je dirais que la seule chose qui vaille la peine d'être mondialisée, dit-elle, puisqu'elle parle de la mondialisation, la seule chose qui vaille la peine d'être mondialisée, c'est la contestation, et c'est là ce que l'Inde peut exporter de mieux.
Les cloches des bêtes peuvent sauver la révolte, l'organisation seulement qui peut sauver la révolution.
Nosotros llegamos a viejo y dormimos bien porque la conciencia no nos reprocha, hemos hecho lo que debíamos haber hecho y lo haría de nuevo.
Maintenant nous sommes vieux, maintenant nous pouvons bien dormir parce que notre conscience nous laisse tranquille, nous laisse dormir. Nous avons fait ce qu'il fallait.
¿Hablas español? Nunca, no se ha vuelto a repetir en la historia que gente haya ido voluntaria a una guerra que no sea la suya.
C'était la première fois et la dernière que des gens se sont présentés volontaires pour lutter contre une guerre, dans une guerre qui n'était pas la leur.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, en Espagne, avec les anciens des brigades internationales.
Flight number 2, arriving from...
La guerre d'Espagne a marqué, en effet, une charnière. C'est qu'à ce moment-là, j'ai pris nettement conscience que l'inféodation du catholicisme à l'extrême droite et à la réaction la plus réactionnaire, si je veux ainsi dire, et la plus brutale, eh bien, était consacrée par Franco.
Soy verdaderamente emocionada y profundamente agradecida de la expresión de solidaridad del pueblo francés para con el pueblo español. El pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia.
Adieu, chers camarades, adieu. Aéroport de Barcelone, ils ne prennent pas le même avion. Jacob rentre à Tel Aviv et Roberto rentre à Cuba. Hey, tu m'enverras les photos? Adieu mon Roberto, dit Jacob avec un vieil accent yiddish. Adieu, Jacob, dit Roberto avec son costard de rumba. Il se serre dans les bras, sur les vestons, les médailles se mélangent comme les cœurs battants des anciens combattants. Pensez, on s'était pas revu depuis 60 ans. T'as pas changé, mon Roberto. Toi non plus, Jacob. Grand brûlé de l'histoire, trahi, manipulé, récupéré, vaincu, cocu, magnifique. Les anciens combattants des brigades internationales revenus en Espagne pour le 60e anniversaire de l'engagement dans l'été 1936. Grand brûlé, mais les braises sont là, dans les flammes et dans les larmes des petits vieux d'une infinie pureté. Tu crois qu'on se reverra? Bien sûr qu'on se reverra. 80 ans en moyenne, toujours vert, toujours rouge. Ils sont venus se raconter des vieilles blagues, des faits d'armes improbables, ne pas savoir quoi faire avec les œillets, se souvenir du chant sous la lune de la fille d'un gitan, et soudain pétrifier un silence pour un copain mort, alors, au soleil, dans un champ, au bord de l'Èbre, mort, tout simplement. Ils sont revenus pour cette célébration. Adieu. Ils ne prennent pas le même avion. Leipzig, Dublin, Los Angeles, Prague, Mexico, La Havane, Liverpool, Copenhague, Moscou, Paris. 35 pays. Ils venaient de partout pour mourir pour la liberté, tout simplement. Mourir pour Madrid, clamser pour Barcelone, quel sens ça a aujourd'hui, nous qui n'avons plus que le pouvoir de zapper quand on voit Sarajevo, quand on voit Kigali. Hommage, émotion, c'est beau, mais après, vous êtes l'histoire, vous êtes la légende, leur avait dit la Passionaria en 1938. En quel sens, aujourd'hui, la nostalgie, que reste-t-il de leurs violents élans, que reste-t-il de ces passions? La guerre d'Espagne est une histoire légende. Quelle est la part de l'histoire? Quelle est la part de la légende quand la légende devient à nouveau une réalité? La part du vieux dans cette histoire, la part du feu dans cette légende, dans les yeux des grands brûlés qui se sont consumés pour la liberté. Aujourd'hui, on les retrouve, on essaye d'aller un peu plus loin avec un grand témoin, le colonel Roll Tanguy, et avec un historien, Pierre Brouet. Colonel Roll Tanguy. Ça fait trois mots. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les trois mots?
Eh bien, Tanguy, c'est mon patronyme, un nom bien connu en Bretagne. Et comme en Espagne, le dernier commandant du bataillon commune de Paris, qui a été tué le 23 septembre 1938 à Sierra Caballes face à Gandesa, j'ai donc pris le nom de ce camarade qui s'appelait Théo Roll, qui était un citoyen d'Épinay-sur-Seine, qui s'était engagé très tôt dans les brigades internationales.
Et colonel?
Ben, colonel, ça vient d'une décision du Conseil national de la Résistance, qui le 1er juin 1944 m'a confié la responsabilité du commandement des forces françaises de l'intérieur de l'Île-de-France.
Une statue, on pourrait dire ça comme ça, une stature en tout cas, celle du colonel Roll Tanguy, Henri Tanguy, avec ses enfants autour de lui, nous le rencontrons à Barcelone, avec son épouse qui fait un petit clin d'œil quand on lui demande si elle veut répondre à quelques questions. Elle dit non, moi je suis la gardienne du temple. Et ben alors on va s'adresser directement au temple, à ce monsieur impressionnant, superbe, qui est de toutes les commémorations concernant ce 60e anniversaire de l'engagement des brigades internationales, donc à l'automne de 1936 en Espagne. Il y a 60 ans, vous arriviez ici. Pourquoi?
De 1923 à 1936, j'ai travaillé dans les usines d'automobiles, Renault, Citroën, Breguet. J'étais devenu un ouvrier de haut niveau. Et je gagnais très bien ma vie. Mais en même temps, comme j'avais adhéré en 1925 aux jeunesses communistes, également au syndicat la Confédération Générale du Travail Unitaire, et tout cela m'a donné une formation, je dirais, sur le terrain, parce que je n'ai jamais suivi aucune école, ni politique, ni militaire dans ma vie. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi, par moi-même. Alors, de responsabilité en responsabilité, avec la situation internationale, tout naturellement, j'ai pensé que ma place était en Espagne. Par conséquent, mon départ en Espagne était dans la logique même de toute mon activité de jeune militant, de communiste, d'homme qui, avec une idée en tête, c'est d'assurer la paix. Par conséquent, c'était tout naturellement que je suis parti en Espagne sans esprit d'aventure, ni avec je ne sais quelle conception personnelle en tête. Non, j'étais un militant antifasciste.
Vous évoquez un peu le romantisme de cette histoire-là. Or, c'est ce qui reste aujourd'hui. Vous n'étiez pas un personnage romantique.
Pas absolument. Le romantisme, un peu, c'est ce que les écrivains inventent ou respectent ou suivent pour donner peut-être davantage d'impact à leurs écrits ou à leurs films ou à leurs poèmes. Ça, c'est leur affaire, mais c'est pas la mienne. C'était une nécessité de lutter pour la paix.
Comment vous considérez l'aventure de Malraux?
Malraux, on dit, je crois, juste raison que dans les grands moments de sa vie, il s'est toujours engagé que pour quelques mois. Bon. En Espagne, comme il avait un ami aviateur, Corneglion Molinier, qui était un aviateur de haut niveau, c'était son ami, sans doute, je ne sais pas, ils ont discuté ensemble, et il a eu l'idée de dire pourquoi ne pas former une escadrille. L'ambassadeur d'Espagne a mis à sa disposition des fonds très importants. Comme Malraux connaissait Pierre Code, ministre de l'Air du Front Populaire, il s'est entendu avec lui pour avoir environ une vingtaine d'avions. Et il a formé cette escadrille avec des mercenaires. Et cela se faisait en dehors de l'aviation républicaine qui était commandée par le général Hidalgo de Cisneros. Et de Cisneros a dit, si on m'avait donné à moi les moyens qu'on a donné à Malraux, eh bien, j'aurais peut-être fait mieux. C'est pour dire que c'était vraiment une aventure de Malraux. Mais une aventure qu'il faut respecter. Et d'ailleurs, je rappelle toujours, et on l'oublie, deux actions étonnantes de l'escadrille Malraux. Quand la colonne mort qui venait de massacrer à Badajoz des milliers d'ouvriers, il est venu avec son escadrille et il a, je dirais, causé pas mal de pertes à cette colonne. Un mois après, dans la province de Tolède, où il y avait le poste de commandement, l'état-major de Franco, il a bombardé l'état-major de Franco. Voilà deux faits d'armes concrets du rôle de cette escadrille. Par conséquent, moi je respecte ce... Et surtout, alors après, il a transformé ça en film, qui reste maintenant un des classiques du cinéma de l'époque, l'espoir. Je dois ajouter... Et c'est à l'actif de Malraux qu'il est parti aux États-Unis. Il a fait une campagne dans tous les États-Unis pour la République.
Alors justement, les États-Unis, ça m'amène à un autre personnage qui nous permet d'entrer dans l'histoire de la guerre d'Espagne et des brigades internationales, c'est Ernest Hemingway. Comment vous, aujourd'hui, avec autant d'années passées, vous voyez ce qu'a écrit Hemingway et sa conduite?
Hemingway, je veux pas le juger. C'était un ami de l'Espagne. C'était un écrivain, c'était un journaliste. Il travaillait pour beaucoup de journaux américains, il devait faire de la copie. Bon, il faisait de la copie à sa manière.
Voilà, voilà pour ce qui concerne Ernest Hemingway, pour qui sonne le glas, et la façon dont le colonel Roll Tanguy, héros de la résistance française et des brigades internationales voient les choses. Alors je peux vous dire qu'il y a des auditeurs qui sont l'oreille collée à leur transistor. En tout cas, ça éveille beaucoup de passion encore. C'est curieux, ça tombe au moment où Malraux entre au Panthéon, Malraux l'aviateur, Malraux de l'espoir, Malraux de l'Espagne, Malraux qui était un chaud, très net et très clair partisan de l'intervention de la pluie soviétique durant cette guerre d'Espagne. Et puis, il y a eu le film de Ken Loach, Land and Freedom, Tierra y Libertad en espagnol, qui a intéressé beaucoup les jeunes qui ont vu là tout un élan, toute une histoire. Et d'autres aussi, on va y revenir tout à l'heure avec Pierre Brouet, ont vu là une des pages qui avaient été un peu enfouies et un peu cachées au cours de cette histoire. De l'histoire, parce qu'évidemment, Il y a des regards qui se portent sur l'histoire et qui changent avec le temps. Là, c'est le 60e anniversaire des Brigades internationales, mais le 50e en 86 était différent parce qu'on était en 86. En 76, imaginez, en 76, un an après la mort de Franco, ce que pouvait être la célébration. Et puis, au du temps du franquisme, où les faisait-on ces célébrations? Et qui en parlait et comment en parlait-on? Il y a un temps pour l'histoire, il y a un temps pour la légende, et c'est très difficile de séparer les deux dans un cas comme celui-là où la légende, les mythes nés ou engendrés par cette guerre sont toujours, en fait, on s'en est rendu compte au cours de ce voyage, très vifs et très vivants dans les imaginations des Espagnols et de beaucoup, puisqu'ils venaient d'un peu partout, ces brigadistes, dont Henri Tanguy, qui lui venait de France. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes qu'il y avait à l'intérieur des brigades internationales? Parce que évidemment que la lutte antifasciste fédérait tous les points de vue et toutes les actions, mais il y avait aussi des différences.
Oui, vous avez raison de soulever cette question, parce que l'histoire des brigades, c'est pas quelque chose, une marche triomphale où tout le monde se soutenait, etc. Chacun venait avec ses conceptions, avec sa formation, avec sa formation également politique et militaire. Par exemple, les Allemands étaient très disciplinés. Bon, les Français, ils étaient un peu cabochards. Bon.
Je voudrais aussi que vous me parliez des divisions entre les communistes, les anarchistes.
C'est pas des divisions, c'est des...
Et le POUM.
Le POUM. Le POUM, là encore, vous savez, c'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. La révolution d'abord, et la victoire ensuite.
Ça, c'était le point de vue du POUM.
Le point de vue du POUM. Et avec un tel point de vue, on crée tout de suite des divisions, des difficultés. On crée des unités qui se placent en dehors du commandement unique de l'armée. Et par conséquent, on apporte par là une aide à Franco.
Qui a entraîné ce qu'on a appelé la guerre dans la guerre.
Guerre dans la guerre. Non, il n'y a plus de guerre dans la guerre parce que très vite, la République a pris les mesures. Et puis quand même, il y a l'exemple des anarchistes. Quand Durruti est venu se battre à Madrid et qu'il a dit nous renonçons à tout sauf à la victoire, lui avait compris. Et c'était un chef anarchiste dont les forces que lui représentait et dirigeait étaient bien plus importantes que celles du POUM.
Vous dites que vous étiez un jeune communiste. Aujourd'hui, vous êtes toujours au parti?
Toujours.
Mais c'est quand même pas facile d'être resté communiste jusqu'à aujourd'hui.
Non, c'est pas facile. À partir du moment où on a une idée, une conviction, enfin, le parti communiste, qui a été l'élément moteur du Front populaire? Qui a rassemblé toutes les forces de gauche contre le fascisme? Qui le premier a commencé la résistance? Qui a organisé la première grande formation armée des FTP? Et ensuite, ils sont fondus dans les FFI.
Finalement, entre les gaullistes de la résistance et vous, il y a beaucoup plus de choses qui vous réunissent que de choses qui vous séparent.
Absolument. Mais absolument. Au départ, le général de Gaulle a voulu mettre sur pied une force militaire, mais les FFI n'ont jamais dépassé 17 000 hommes. Et en décembre 41, quand il a vu qu'en France, la résistance s'organisait et se battait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jean Moulin pour le représenter et pour arriver à cette unification de la résistance sous l'égide du Conseil National de la Résistance.
Alors, votre conduite a été tellement héroïque, etc., qu'on n'ose pas, mais quand même, je vais oser.
Quand on est un homme conséquent, quand on vous donne une responsabilité, vous l'assumez, mais c'est tout.
Mais je veux rester quand même sur le communisme. Qu'est-ce que vous pensiez en 1956 quand les chars soviétiques entraient dans Budapest? Qu'est-ce que vous pensiez de ce qui se passait à Prague en 1968, etc.?
Il est certain que quand une force, quelle qu'elle soit, intervient contre un peuple, c'est condamnable. C'est tout.
Staline, les goulags?
Staline, le goulag. Je crois que maintenant tout a été clarifié. On quand on pense que le canal Don Volga a été fait par les prisonniers politiques. Ça n'a rien à voir avec l'idée que nous avions, nous, moi quand j'étais jeune communiste et après communiste avéré, avec les idées. Par exemple, quand j'ai entendu Staline écrire l'homme le capital le plus précieux, puis ensuite quand on a eu toutes ces révélations, il est certain que c'était au moins un abus de confiance.
À partir de quand vous avez eu ces révélations et à partir de quand vous avez rejeté, vous avez attendu Khrouchtchev?
Écoutez, moi j'en suis pas à dire qu'un jour j'ai eu des révélations, etc. C'est pas ça la chose. Et la personne ne peut le contester. Mon attitude a toujours été l'attitude d'un homme qui a respecté les peuples, qui a respecté les libertés. Jamais on n'a trouvé sous ma plume, ni dans mes responsabilités, un geste qui soit, je dirais, à l'image du stalinisme.
Dans une vie remarquable comme la vôtre, on peut pas ne pas avoir de regrets.
Pourquoi les regrets? Les regrets, il y a l'histoire qui répond. Et je crois que dans l'histoire, je me suis inscrit d'une façon honnête. On ne peut pas me reprocher, moi, un acte quel qu'il soit, qui ne soit pas marqué du sceau de l'honnêteté, du sceau du dévouement, du sceau sacrifice de ma vie et de ma famille. Parce que j'avais avec moi dans la résistance ma femme et mes enfants. Mais ça, nous l'avons fait les uns et les autres, la famille. On l'a fait comme un devoir. Et cela reste. Et je pense que dans l'histoire, justement, on ne fait pas suffisamment pour faire voir à la jeunesse ce que les résistants, ceux qui ont combattu jusqu'au bout, qui ont affronté tous les dangers que vous connaissez, sont restés eux-mêmes fidèles à leur engagement initial. Tout simplement.
Donc en 1938, vous avez quitté Barcelone, cette ville où nous sommes. Cette ville, vous l'avez quittée avec les encouragements et les acclamations du peuple. Espagnol, catalan en l'occurrence, mais c'était une défaite.
C'était pas des encouragements. C'était finalement, même si c'était pas très clair dans la tête des habitants de Barcelone, c'était un grand remerciement. Quand ils nous ont vus défiler, on avait même des gens encore avec des pansements, des blessures. Il est certain que ça a été un grand moment, une grande motivation. On ne voit pas un tel spectacle sans être remué. Et nous avons marché pendant 2 kilomètres sur des fleurs. Les hommes avaient les joues couvertes de rouge à lèvres. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est de l'histoire. Le fait que 60 ans après, vous viviez avec nous cette réception des anciens des brigades par la jeunesse espagnole. Résister 60 ans à l'usure du temps, eh bien, ça prouve que l'événement était suffisamment important et marquant dans l'histoire, ce qui veut dire que l'impact que les brigades ont laissé est si profond, et si beau, si juste, que spontanément, même si les jeunes ne savent que le mot brigade internationale, ça suffit pour les motiver, pour comprendre plus ou moins confusément, plus ou moins nettement ce qu'a été cette période. C'est sûr que ça s'est passé dans leur pays.
Pierre Brouet en a marre. Il en a marre de faire ses débats et ses conférences depuis la sortie du film de Ken Loach, Land and Freedom. Il est demandé partout, dans les universités, dans les ciné-clubs, partout, on lui demande de venir expliquer, débattre autour de ce film. Il dit qu'il en a marre, mais je suis sûr qu'il adore ça. Pierre Brouet a à peu près 70 ans, une belle moustache blanche, et il est historien, un historien de grand tonnage, disons, et il s'est fait connaître en 1961 avec son compère Émile Ténim pour la publication d'un livre intitulé tout simplement « La Révolution espagnole 1931-1939 ». Et ce livre a fait un certain bruit parce qu'il évoquait les divisions qui existaient à l'intérieur du camp antifasciste, on va dire. C'est-à-dire entre les communistes, les anarchistes et ce parti POUM, P-O-U-M, créé je crois en 1933 et qui était constitué par des communistes dissidents, dont certains étaient trotskistes, ce qui est aussi le cas de Pierre Brouet. Il faut être clair là-dessus. On a entendu le colonel Tanguy qui est au Parti communiste, voilà Pierre Brouet qui est trotskiste, qui ne l'est plus, mais qui l'a été. Donc c'est un homme de conviction mais, comme vous voulez, c'est un historien remarquable et remarqué qui fait autorité, et cet ouvrage fait autorité pour ceux qui s'intéressent à cette partie de l'histoire. Donc on se retrouve tout simplement avec Pierre Brouet pour d'abord un petit rappel historique. Arriba España!
Eh bien, la guerre d'Espagne commence en juillet 36 avec le soulèvement des militaires qui est, disons, une opération préventive pour empêcher la révolution. L'opération préventive déclenche la révolution.
Quel est le paysage social à l'époque et quels vont être les partenaires, les adversaires, les acteurs de cette histoire?
Écoutez, il y a d'abord une masse paysanne avec des conditions très diverses, mais où quand même le paysan pauvre domine. Il y a un prolétariat pauvre, très combatif, avec une tradition qui s'appuie sur les anarches.
Anarchistes. Ça, c'est une rareté.
Oui, c'est une rareté chez nous. Chez nous, il y a des intellectuels, surtout, qui sont anarchistes. Parce que le type de l'anarchiste, c'est un ouvrier ou un paysan. Et c'est des gens qui ont l'initiative, la combativité, l'idée, l'imagination. Et le fait qu'il y ait des anars en Espagne, ça a beaucoup compté pour le déroulement concret de la guerre.
Et les anarchistes, ces anarchistes-là, c'est pas nos anarchistes d'aujourd'hui, ils seraient plutôt comparables dans notre histoire française à nous, à nos anarcho-syndicalistes du tournant du siècle.
Absolument, c'est la CNT, Confédération Nationale du Travail, c'est anarcho-syndicaliste ou syndicaliste révolutionnaire. La nuance est faible entre eux, c'est eux, c'est ça.
Ceux qui vont être les acteurs de ce coup d'État, du golpe, on dit comme ça, représentent qui? Sont le bras armé de l'autre Espagne, c'est-à-dire l'Espagne des propriétaires, des grands propriétaires, l'Espagne catholique.
De l'Église, de la hiérarchie catholique, qui est très puissante, bien sûr. Du corps des officiers et d'un certain nombre de bourgeois qui sont en principe souvent républicains, mais dès que les troubles commencent, les voilà qui se précipitent à droite.
Alors, on a évoqué du côté républicain, dans le camp républicain, on a évoqué les anarches qui n'y sont pas encore, les anarchistes qui n'y sont pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce camp-là? Il y a les communistes.
À cette époque, ils sont vraiment pas grand-chose. Un petit groupe qui a crevé de sectarisme pendant des années.
Crevé de sectarisme.
Sectarisme, oui. Condamnant tout le monde, les social-fascistes, les narco-fascistes, enfin, le vocabulaire de l'époque. Il y a les partis républicains. Et puis qui le soutient, bien qu'il soit plus ou moins clair, le POUM, qui est le parti de Marie-Lénine, c'est-à-dire de communistes et dissidents.
Alors le POUM, P-O-U-M, Parti Ouvrier
d'Unification Marxiste.
Voilà. Alors qui ne sont pas les trotskistes.
Il y a les anciens trotskistes, dont ils sont dedans, c'était la gauche communiste. Mais ce ne sont pas des trotskistes proprement dit. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand les soviétiques disent « ces gens sont des trotskistes », ça veut dire « ces gens sont des gens à fusiller ». on comprend mieux ce que ça veut dire. Pour lui, Trotsky, c'est à abattre.
Le paysage alentour, c'est en France, donc en 36, ce front populaire qu'on a évoqué. C'est en Italie, évidemment, Mussolini qui est au pouvoir. Mm-hmm. Et c'est en Allemagne, la montée d'Hitler.
Non, il est au pouvoir depuis 3 ans.
Il est au pouvoir depuis 1933.
Et n'oubliez pas Salazar, au Portugal.
Et Salazar derrière au Portugal.
Oui, il va tout bloquer. Il va servir de base arrière aux franquistes.
Il y a les soviétiques, évidemment, qui sont au loin, mais qui vont jouer un rôle.
Oui, mais alors là, il faut le dire tout de suite, hein, les soviétiques s'en sont contrefoutus pendant 3 mois. Ils ont, y compris, contrairement à ce qu'on raconte, signé l'accord de non-intervention. Bon, alors, ils ont laissé passer le moment où on pouvait gagner cette guerre.
Ils vont s'y intéresser à partir de quel moment ? Avant ou après ?
Septembre. Ils vont s'y intéresser
En septembre 36.
Septembre 36.
Dans un premier temps, donc, coup d'État réactionnaire, on va l'appeler comme ça. C'est comme ça que vous l'appelez, vous le baptisez ?
Militaire, hein, c'est un pronom
commun. Coup d'État, pronunciamento, coup d'État militaire, qui n'est pas brillant.
Qui n'est pas brillant. Qui n'est pas brillant parce que il s'est trouvé face... Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe avec les avancées des éléments de droite, réactionnaires, fascistes, etc. Les prolétariats espagnols résistent. Les paysans résistent. Ils prennent les armes, ils se défendent, et ils gagnent souvent. Alors bon, il faut comprendre que la droite a soulevé ses généraux pour empêcher la révolution. Et le fait même de combattre la droite a obligé les ouvriers et les paysans à faire une révolution. Parce que pour combattre la droite, il fallait liquider l'armée, liquider l'église, liquider les grands propriétaires. Et ces 3 points-là, ça fait une révolution.
Dans les zones du pays contrôlées, qui étaient sous le contrôle du camp républicain, on a pris des initiatives révolutionnaires.
Ah, partout, ils ont liquidé l'armée et fait des milices à la place. Ils ont confisqué les terres, ils ont fusillé les curés, ils ont installé des marchés ou des maisons du peuple à la place des églises. Et ils ont créé des organismes de pouvoir révolutionnaire qui s'appelaient comité, conseil, juntas, ce que vous voulez. Ils ont créé des organismes... Non, c'est une révolution très riche.
Une révolution très riche et qui nous intéresse toujours. Il faut revenir sur cette histoire... La division et la répression qui s'est abattue sur les communistes indépendants du POUM et sur les anarchistes, qui pour beaucoup a montré et démontré comment l'Union soviétique et ses agents ont trahi la cause de la révolution. C'est le point de vue de plus en plus répandu maintenant à la suite des travaux qui sont faits, des archives qui s'ouvrent, des travaux qui sont faits par les historiens. Là, il faut peut-être rapidement évoquer ce qu'a été mai 37. C'est en mai 37 que se produit l'affrontement majeur entre républicains qui aboutit à l'écrasement par les armes, pour beaucoup de d'observateurs et d'analystes, du mouvement révolutionnaire. En mars 37, des unités communistes expulsent des anarchistes qui occupaient les postes douaniers à la frontière de la Catalogne. Et en guise de revanche, en avril, les anarchistes prennent le contrôle du centre téléphonique de Barcelone, ainsi que de certains quartiers de la ville. Le gouvernement à dominante communiste contre-attaque durant 4 jours, jusqu'à la capitulation des forces libertaires, anarchistes donc, et poumistes. C'est donc une guerre à l'intérieur de la guerre, une guerre civile à l'intérieur de la guerre civile, évidemment absolument fratricide. Il y aura 400 victimes dans Barcelone. Et là, c'est le début d'une terreur qui est mise en place par les communistes, assistée par les experts du NKVD, c'est-à-dire, ce qui s'appellera par la suite le KGB, c'est-à-dire la CIA soviétique, si vous voulez, et qui sera dirigée non plus contre les fascistes, mais contre l'extrême gauche indépendante. À partir de là, la ville se peuple de tribunaux politiques où l'on torture, où l'on abat comme à Moscou, et la plus illustre victime sera Andrés Nin, qui est tel le leader du POUM, dont le corps n'a jamais été retrouvé, et qui était le père de l'écrivain, ou écrivaine, comme vous voulez, Anaïs Nin, voilà, vous voyez, qui fut entre autres l'ami d'Henri Müller. On continue ces analyses et ces descriptions de la guerre d'Espagne avec Pierre Brouet.
Revenons maintenant à l'épisode de novembre 36, lorsque les brigades internationales arrivent. C'est l'épisode qui nous intéresse.
Alors, au départ, il y a eu des volontaires de tous bords. Des volontaires de tous bords, des communistes, bien sûr, mais pas forcément les plus nombreux, des anards, des socialistes, de tout. Et qui ont constitué des unités, comme les unités de milice, auprès des milices de chaque parti ou syndicat.
Et pourquoi venaient-ils, ces gars-là?
Parce qu'ils ont l'impression qu'il faut aider l'Espagne, que c'est un point décisif pour le combat contre les fascistes. Mais ça, c'est venu après, c'est quand le PC s'est rendu compte qu'il pouvait être débordé par ce genre de choses, et qu'il a donc décidé de convaincre le gouvernement espagnol de créer des troupes spéciales, qui d'ailleurs étaient officiellement la Légion étrangère du gouvernement républicain, qui sont appelés les brigades, et qu'ils ont contrôlé de A à Z. Hein. Alors là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Moi, j'ai passé des heures dans les archives sont à Moscou, et tout était contrôlé jusqu'au moindre bouton de veston. Hein. Les brigades internationales, c'est l'affaire de l'international communiste et des services soviétiques.
Ce que vous suggérez, c'est que ces gars-là ont été manipulés, les brigades ont été manipulés, ou bien ils le savaient.
Il y en avait qui savaient, et puis il y en avait qui sont venus en Espagne pour défendre la liberté, le droit à la vie, tout ce que vous voulez, et qui ont mené une autre politique que celle qu'ils auraient menée s'ils avaient été libres de la mener. Mm-hmm. Je pense, moi, que les Espagnols, il y a une grande escroquerie. Écoutez, je vais vous dire, moi j'ai eu un ami allemand qui était un drôle de type, un aristocrate allemand qui rêvait de se battre contre le nazisme, et qui a voulu adhérer au parti communiste. Il s'est fait foutre de lui, évidemment, ils n'ont pas voulu. Ils l'ont embauché dans un service secret. Lui assurait qu'il ne savait pas que c'était le service secret soviétique. Bon, peu importe. Et il s'est retrouvé en Espagne, et en Espagne, il est entré dans la police de Catalogne, où il surveillait les Allemands pour essayer d'y repérer les nazis ou les trotskistes. Il a arrêté des gens, il a torturé, interrogé, torturé. Il est arrivé cette chose extraordinaire que un metteur en scène serait bien inspiré de raconter, c'est qu'il s'est trouvé en face d'un vétéran communiste qui était un Suisse, qui l'a traité de cochon, de fasciste, etc., etc. Il s'est mis dans une colère noire, pourquoi tu me votes de fasciste, c'est toi le fasciste, non, c'est toi, bon, etc. Et finalement, les arguments de l'autre ont fini par atteindre je ne sais quelle zone dans sa tête. Il a cessé de le cogner, ils ont commencé à parler, ils ont parlé toute la nuit. Le lendemain, il le faisait évader, il s'évadait lui-même. Et ce type a tout d'un coup découvert la politique qu'il avait appliquée, qui il avait persécuté, c'est-à-dire des frères, et non pas l'ennemi, le fasciste. Et à sa façon caricaturale, mon ami von Ranke résume le drame de ces combattants, qui aujourd'hui en plus, bon, ils refusent d'en parler, si vous voulez, ils vous disent, non, on a eu raison, tout ça c'est des conneries, comme ils disent, comme ils disent en France, et en fait, bon, c'est leur raison de vivre, qu'il est de ne pas avoir été manipulé, ils l'ont été.
Ils l'ont été. Pour une part d'entre eux, ça ne les dérangeait pas, bien au contraire. Mm-hmm. Et pour d'autres l'ont découvert. Mm-hmm. Quand est-ce qu'ils l'ont découvert, les autres?
Il y en a pas mal qui l'ont découvert en partant. Seulement ceux-là, ils n'ont jamais eu le temps de s'exprimer. Et bien, vu l'écart entre la guerre et la guerre mondiale et la fin de la guerre d'Espagne, ça a été trop réduit. Ils étaient dans des camps, ils étaient, vous voyez, ils n'ont pas pu s'exprimer.
L'intention soviétique, elle était quoi?
Alors, l'intention soviétique était de défendre en Espagne les positions de la République pour empêcher l'Axe de prendre des positions...
L'Axe, c'est-à-dire l'Italie.
De prendre des positions stratégiques. En même temps, de montrer aux franco-britanniques qu'ils étaient une puissance respectable, qui pouvait ramener l'ordre, empêcher les violations de la propriété, à qui on pouvait s'allier, à qui on pouvait faire confiance, pour ne pas sombrer dans la révolution et pour être de solides alliés militaires contre le fascisme. Voilà ce qui était les intentions de Staline.
Il y a des gens qui ont été complètement cocus là-dedans, cette histoire.
Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être absurde, mais j'ai une très grande pitié pour les assassins, dont les derniers sont en train de mourir. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce qu'on leur a donné les ordres, ils ont cru bien faire. Et ils ont tué leur frère. C'est pas possible d'être plus cocu que ça. Et cette génération était une génération abominablement dupée. C'est ça le drame du stalinisme. Le principal drame du stalinisme, c'est ça. C'est qu'ils ont employé à leur fin, aux fins de l'intérêt d'une couche privilégiée en URSS, Staline et compagnie, le dévouement de millions d'hommes qui étaient prêts à se battre pour la liberté, l'égalité, le bonheur des hommes, etc. C'est une gigantesque escroquerie.
Los cuatro generales, mamita mía, que te han alzado, que te han alzado. Para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mía, serán ahorcado, madre que bien resistes. Madre que bien resistes, madre que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños.
On est en train de célébrer cette guerre d'Espagne, d'abord sous un dehors très romantique, hein, il y a tout un côté romantique, mm-hmm. Il y a tout un côté héroïque, on dit regardez comme ils ont été courageux, ils mm-hmm. savaient mettre leur vie jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
Ce sont les seuls qui se sont battus pendant 3 ans contre les nazis fascistes, ce sont les seuls.
Ailleurs, il faut quand même leur rendre d'abord cet hommage-là.
Absolument, moi, chaque fois que je parle d'Espagne, je commence par ça. C'est les seuls.
Mais seulement, on s'arrête là, généralement. Enfin, aujourd'hui, on a tendance un peu à rester à l'hommage, et puis on va pas tellement plus loin.
Là, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que la logique de ce que les défenseurs de la politique stalinienne en Espagne racontent, leur logique, c'est qu'il faut, pour gagner, établir une dictature de fer et un régime totalitaire. Ce qui est pas vrai. On ne se bat pas contre les idées qu'on défend. Et en faisant le contraire de ce qu'on défend. De même qu'on fait pas l'histoire avec une gomme.
Bon. On fait pas du passé table rase, quoi, ça. Voilà.
Alors donc, c'est ça qui est au cœur du problème aujourd'hui, sur lequel il y a des résistances.
Aujourd'hui? Bon. Aujourd'hui seulement?
Mais oui, aujourd'hui parce que, le film de Ken Loach, par exemple, a mené au premier rang ces questions. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Moi j'ai écrit mon premier livre sur la révolution et la guerre d'Espagne avec Émile Témime. Bon, vous croyez que j'ai été interviewé? Croyez qu'on m'a demandé quelque chose? Et aujourd'hui, maintenant, on me demande, on me fait venir ici, à gauche, à droite. Ah! Aujourd'hui! Il y a 60 ans de ça. Et ce sera maintenant ou jamais, hein, mais si c'est jamais, c'est un ulcère qui s'installe pour toujours.
À partir de quel moment a-t-on été en mesure de savoir quelle était la vraie nature du stalinisme?
C'est une question difficile, parce que quand vous dites « on », ça veut dire 10 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes.
C'est pour répondre à la petite phrase « ah bon, vous ne savez pas, on ne pouvait pas savoir ».
Écoutez, moi, je pense que les procès de Moscou, tels qu'on nous a présentés, pour un être à l'esprit indépendant qui s'est serré de sa tête, c'était éclatant. Et consciemment ou non, ceux qui n'ont pas compris à ce moment-là, c'est qu'ils voulaient pas comprendre. Je suis méchant, hein, mais je le pense. Alors, je crois que c'était là, les procès de Moscou. Or, les procès de Moscou, c'est la guerre d'Espagne, hein. Alors c'est ça qui est extraordinaire, vous comprenez, c'est qu'il y a le Front Populaire avec ses espoirs, le pain, la paix, la liberté, etc. Il n'y a jamais eu autant de saloperies derrière. C'est le sang. Alors regardez les Polonais. Mais enfin, les Polonais, ils se battent en Espagne, dans les brigades. Qu'est-ce qu'elle organise internationale? Une mission avec un groupe de travail à Paris, qui va chercher les gars, qui les renvoie en Union Soviétique quand ils arrivent en les fusille. C'est pas extraordinaire, ça? Pourquoi? Parce qu'on veut plus le communisme polonais, parce qu'on va faire un accord avec Hitler. Donc on détruit le Parti communiste polonais. Il y a des épisodes dans mon livre, je les raconte, c'est incroyable. Le type qui écrit son rapport, il dit, il n'y a plus un membre de la direction. Ils ont tous été fusillés comme espions. Que faire? Réponse. On le fusille, lui.
Tiens.
Et ils étaient en Espagne, le gros des types qu'on a fusillés, on les a fait revenir et fusiller. Et le père Dimitrov, le père des peuples, le père Dimitrov, sur son journal intime, il note,
tel jour, un tel, chez Yejov, donc, à la guépéro qui va le tuer, un tel, chez Yejov, un tel, il est convoqué à son bureau. Et à côté, il y avait des tchéquistes, il ouvrait la porte, hop, il l'embarquait, hop, hop,
deux balles dans la tête.
Hein? Et c'était, à l'époque, du Front Populaire pour la paix, la liberté, tout le bonheur humain, hein? La blonde entendue dans la ville.
Je reviens à nos brigadistes. Oui. Vous avez découvert tout ça à travers votre travail d'historien, mais eux, qui sont plus âgés que vous, quand est-ce qu'ils ont découvert le pot aux roses? Quand est-ce qu'ils ont découvert qu'ils étaient trompés, qu'ils étaient agis?
Khrouchtchev, le discours de Khrouchtchev.
56.
Mmh. Et c'est à ce moment-là que le mur du silence a été scellé. Il y avait dans mon département un vieux militant qui était un dur de dur, un mineur, etc. Lui, il a eu un copain qui lui a confirmé, Khrouchtchev avait bien prononcé ce discours. Il s'est levé, il est allé à la cheminée où il y avait le portrait de Staline, le buste de Staline, et il a bridé. Il n'a plus fait un commentaire. Lui, il avait compris ça, mais après, il a bouclé ça jusqu'à la fin de ses jours.
Les jeunes qui à Albacete, qui à Madrid, qui à Barcelone acclament et applaudissent ces vieux brigadistes, rend hommage à leur courage, etc. Et c'est très bien, et c'est parfait, et c'est juste, et ça doit être fait, mais à condition que ça s'arrête là.
Je pense que ça s'arrête là. Je pense que maintenant, c'est plus avant en bloc maintenant. On peut rendre hommage à ces hommes courageux. Pas une raison pour approuver leur crime, mais je crois pas que les jeunes qui... Je crois que les jeunes sont capables de faire ça, d'applaudir ces vieux, et en même temps de dire, mais en tout cas, nous, on ne recommencera pas. On travaille pour l'avenir. Moi, si je fais maintenant mon livre sur l'histoire de la Comintern, c'est entre autres pour mettre un obstacle difficilement contournable sous les pas de ceux qui sont payés pour expliquer que c'était l'utopie majeure, que ce sont les rêves qui ont conduit les hommes à la catastrophe, parce que le pire des crimes, c'est de vouloir changer le monde.
Et vous n'avez pas relancé à ce rêve-là?
Absolument pas. J'ai la même conviction que j'avais quand j'avais 18 ans ou 16 ans. Donc je travaille pour le triomphe de la vérité demain, après-demain, je sais pas quand.
Et le triomphe de la révolution?
Peut-être aussi, mais ça dépend ni de moi ni de vous.
Alors, soyez plus précis.
Non, la révolution, vous savez, personne ne l'invente, personne ne la fait, elle vient, elle se fait, c'est d'ailleurs ça. L'imbécilité de ceux qui en Espagne disaient la révolution demain, elle était là, la révolution. Et la révolution, c'est des milliers, des millions d'hommes qui prennent des initiatives. Et vous les arrêtez pas comme ça, hein? Et vous les déclenchez pas non plus. Hein? La révolution, elle est. Alors, vous vous démerdez avec. Mais si vous êtes contre, vous êtes contre-révolutionnaire, moi j'y peux rien.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, traduction Christina Figueras, à la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, réalisation Antoine Chao, assisté de Coyen Guyenne, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités, notamment le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.